Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui est un véritable exploit. On ne pensait jamais l'atteindre, mais voilà déjà le deuxième épisode de C'est quoi le pitch ? Oui, ça peut paraître un peu prématuré pour s'auto-congratuler, mais on en avait envie. On est parti pour une heure de critique de l'actualité du cinéma vue par des scénaristes, avec au programme aujourd'hui trois films, Tomb Raider, Hostile et Razzia. Autour de moi, les pilleuses de tombe du scénario français, à savoir Fiona, Camille, Sarah, Rumix, Claire et Marine. Et comme il faut au moins une voix virile dans cette émission, Armand est avec nous. Armand, est-ce que tu peux dire bonjour ?
Bonjour.
Ouais, ça fait du bien. On commence avec le courrier des lecteurs. Mais comme je suis un boulet, j'ai oublié de donner l'adresse mail pendant la dernière émission. Donc pas de courrier des lecteurs cette semaine. Mais c'était une V1 et les V1, ça sert à faire des erreurs. Alors voilà notre adresse, c'estquoilepitch@gmail.com, tout attaché. Vous pouvez nous écrire pour nous dire à quel point on a raison ou au contraire, nous dire à quel point on est une bande de connards jamais contents. Je lirai les meilleures remarques au début de chaque épisode. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que c'est entièrement pompé sur le masque et la plume. Mais comme a dit Homer Sisley, si c'est bien, autant le copier. On vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que si quelqu'un a le malheur de dire le mot truc, il entendra cette sonnerie et se verra automatiquement couper la parole. Ouais, c'est dur, c'est dur. Parce que le mot truc est mauvais, la langue française est riche, on travaille dans le scénario, donc on se doit d'utiliser les bons mots. On commence par Hostile, parce que si vous n'en aviez pas encore marre de Timothée Chalamet, eh bien, il revient cette semaine. Direction le film avec les grosses moustaches. Et c'est Rumix qui va nous le pitcher.
Oui, alors Hostile, qui est un film de Sam Cooper. Et,
Exact. Hostile, un film écrit par Sam Cooper et Donald Stewart.
Alors, donc Hostile, c'est un western qui se déroule en 1892 aux États-Unis. Joseph Blocker, donc qui est incarné par Christian Bale, est une légende de l'armée américaine et il est contraint d'escorter Yellow Hawk, un chef indien mourant, ainsi que quelques membres de sa famille, afin que celui-ci aille mourir sur ses terres du Montana. Et durant le voyage, le convoi mené par Joseph croise la route de Rosalie Quaid, une femme dont toute la famille a été décimée par un raid Comanche. Et Joseph décide de la prendre parmi eux. Et voilà, après on suit leur périple jusque dans les terres du Montana.
Donc un road movie western, hein. Sarah, absolument. Qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est
Camille. Camille, qu'est-ce que t'en as pensé?
Camille d'abord.
J'ai aimé ce film. Je l'ai trouvé touchant. Je l'ai trouvé très clair. Grosso modo, c'est quand même l'histoire de Joseph le capitaine qui déteste, qui hait même les Indiens, mais qui doit les protéger. Donc le contraste en ce sens-là en tout cas est respecté et vraiment très très clair. Et je trouve aussi que la thématique du film, qui pour moi, parce que c'est peut-être personnel aussi, mais c'était la difficulté en fait de où est la ligne, où est-ce que tu vas trop loin, que tu deviens quelqu'un qui commet des meurtres, où est-ce que tu défends ta patrie, et ben c'est vraiment tiré tout le long du film et ça m'a beaucoup plu dans Hostile.
Moi, je rebondis justement sur la thématique. Je trouve que c'est un film sur la réconciliation. Et ça m'a extrêmement touchée, ce film, parce que c'est hyper bien tenu. L'objectif est clair de bout en bout. C'est presque un peu simple. Voilà, il doit amener le convoi. OK. Mais c'est tenu jusqu'au bout. Et même si l'objectif est très simple, on a des évolutions de personnages que je trouve incroyables. Des personnages brisés, complexes, qui évoluent. Il y a peu de mots entre... Il y a une relation qui est conflictuelle entre le chef indien et Joseph, alors qu'ils se parlent quasiment pas du film. Donc je trouve ça, c'est extrêmement bien réussi.
Fiona.
Alors, moi, j'ai pas vraiment aimé ce film. Hostile, que j'ai rebaptisé Les Bisounours. Parce que c'est pas parce qu'il y a des morts à chaque étape du trajet, c'est-à-dire à peu près toutes les 5 minutes, que qu'on ne nous montre pas des personnages qui sont des guimauves sur pattes. Voilà, on a Joe Blocker qui est censé pardonner à son ennemi juré quand même. Il a quand même essayé de penser à se suicider plutôt que d'accepter d'emmener le convoi.
Mais... Oh, la scène n'est pas claire à ce point-là. Il est dans le désert, il se met à genoux.
Il veut se suicider.
Il se met à genoux avec un flingue dans les mains en faisant non. À un moment.
Non, il ne touche pas l'arme, il la laisse par terre.
Oui, bon, en tout cas, il est venu dans un champ avec une arme. Il a quand même pensé à se suicider plutôt que le faire. Et en fait, au bout de 15 minutes de film, ça va, quoi. Le pardon est déjà là. On n'a pas besoin d'attendre une heure et demie.
Je suis pas d'accord.
Il lui, parce que déjà, il lui parle quand même de manière très respectueuse, je trouve. Il le voit pas du tout comme une petite vermine et un traître.
Au début, si. Quand il sort du ranch. Mais après, je suis d'accord avec toi.
Il lui parle.
Il perd très très vite et le pardonne très très vite. C'est moi aussi un problème que j'ai avec
et du coup, il lui parle vite. Et puis, quand Yellowhawk lui propose son aide pour affronter les ennemis, il lui dit non, me parle même pas. Ok, pourquoi pas. Premier combat, le brave Timothée Chalamet décède, comme le bleu qu'il était censé être. Hein, donc
en
c'est
disant,
à peu près pas
putain
trop, pas, ouais, voilà, pas grande surprise sur sa mort. Et là, il se dit, Joe, il se dit, ouais, non, on a vraiment besoin de l'aide de ces connards. Et du coup, il accepte d'enlever les menottes, enfin les liens.
Oui, mais
aux mains,
c'est sa propre erreur. Il a voulu leur mettre les chaînes en sortant. Quand il est à peine sorti du ranch, il dit la parade est terminée, vous me les enchaînez. Et c'est sa propre erreur qu'il paye là.
Oui, mais justement là, enfin, il les déteste. Lui, c'était très clair. Il voulait les traiter comme des chiens parce qu'il les voit comme des chiens. Et là, en fait, après cette petite mort du petit Timothée là. Bah c'est bon, quoi. À partir de là, pour moi, le pardon, il est déjà hyper engagé, quoi. La trajectoire de tuer mon pire ennemi à tuer mon ami, je vais appeler mon ami à la fin, pour moi, elle est déjà réglée au bout de 15 minutes.
Attends, alors, la trajectoire, c'est pas quand même à la fin tuer mon ami, mais oui.
Ah, si, il le dit d'ailleurs. Il le dit, mon ami va rester enterré là. Il l'appelle mon ami à la fin.
Oui, mais c'est à la fin. Mais moi, j'ai même pas compris pourquoi, dès qu'il sort pas du camp, il le tue pas directement. Moi, je croyais quand il y a la parade terminée, je pensais qu'il allait mettre contre un arbre et leur tirer une balle
alors
dans
moi,
la tête chacun.
Je sais pourquoi, parce que sinon, il n'y aurait pas de film.
Oui, mais logiquement, t'hésites entre te suicider, on nous explique que c'est un personnage qui a plus rien à perdre. Donc il dit.
C'est quand même vissé au début du film, c'est-à-dire qu'au début, il lui sort plusieurs arguments jusqu'à lui dire écoute, si tu prends pas la mission, t'auras pas ta pension. Oui. Et en gros, toute la thune que tu pensais te faire pour changer de vie, tu peux te la mettre là où je pense. Donc quand même c'est assez bien vissé le fait que il ne le bute pas au début du film une fois qu'il sort du village. Je pense que c'est relié à peu près à ça, enfin c'est-à-dire qu'il faut qu'il termine sa mission. Après je trouve que ça se repose quand même assez bien sur les codes du western, enfin ça suit vraiment, c'est toujours très linéaire un western, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, on arrive à un point B et entre-temps tu as des obstacles. Par contre là où si je peux rebondir sur ce qu'a dit Marine, je ne suis pas du tout d'accord avec la thématique. Pour moi la thématique n'est pas du tout la réconciliation, c'est un film sur la haine, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit sur des divisions, de la haine, de la violence, une conquête des territoires et une haine des gens qui étaient là avant et de ceux qui sont arrivés après. Et que ce que j'ai trouvé vraiment formidable en fait dans la construction du scénario, c'est que à aucun moment on se dit justement, ils vont se pardonner, ça va avancer. Non, c'est toujours pire en fait. Ils se détestent tous. C'est une haine envers les Indiens, une haine à la fin envers quand ils arrivent sur la terre des colons qui sont là et qui ont soi-disant colonisé cette terre et qui leur dit ben non, tu peux pas l'enterrer là parce que sinon on vous bute tous. Et en fait, c'est ce moment à la fin du film où je me suis dit ça ne s'arrêtera jamais, quoi. C'est que c'est là-dessus que s'est construit la nation des États-Unis. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très bien tenu dans tout le film en fait sur cette violence-là. Là où je rejoins Fiona, c'est qu'effectivement le pardon, il est assez facile parce que bon, c'est vrai que t'as l'impression que c'est un peu réglé dès le début du film, mais il l'appelle quand même son ami qu'à la fin du film, ça ne sort qu'à la fin du film.
Non, Sarah ?
Oui, je suis assez d'accord avec Marine, même si je trouve que c'est aussi un objectif de réconciliation. C'est un peu la question pendant tout le film de est-ce que tuer a un sens ? Est-ce que ça a un sens qu'on... C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le côté vraiment très nuancé, pas du tout manichéen des uns et des autres. C'est que en fait, les Indiens ont autant tort que les chefs militaires américains et que tout le monde tue et qu'au bout d'un moment, ils ne savent plus pourquoi ils tuent. Enfin, il y a un côté, en fait, on se déshumanise. C'est un peu sur la déshumanisation via ces meurtres de on tue vos enfants, vous tuez les nôtres et ça n'en termine pas. Et justement, ce que j'ai trouvé assez lumineux, finalement assez optimiste vers la fin du film, c'est ce côté très mélancolique d'une fin de vie. C'est la fin de vie du chef indien. Le bloqueur, il part à la retraite. Et il y a un côté, voilà, c'est terminé. Les luttes, elles sont terminées. Maintenant, faut avancer, faut aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais pas à cette fin-là. C'est-à-dire, je pensais vraiment que, comme dans les westerns traditionnels, l'homme allait rester vraiment seul et solitaire dans ses montagnes, etc. Et là, il fait le choix de prendre le train, de partir pour Chicago avec cette femme qui a perdu toute toute sa famille et ce gamin qui a perdu toute sa famille et lui il a perdu toutes ses amis. Donc c'est voilà, donc c'est trois vies brisées qui vont peut-être pouvoir se reconstruire et il ferme la porte du wagon un peu, on ferme la porte sur cette vie de drame quoi en fait. Et pour dire, enfin moi j'ai beaucoup aimé le film, je suis d'accord avec Fiona quand elle dit que peut-être qu'on dit hostile et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes on se dit en fait les situations de départ sont extrêmement fortes. Avec l'objectif du personnage, enfin Blocker, oui, qui est prêt peut-être plutôt de mourir que d'accompagner ce mec dans le Montana. Pareil, cette femme où ça, toute sa famille se fait massacrer sous ses yeux. Et assez rapidement, ils entrent dans un côté un peu civilisé. Là, on aurait cru que ça allait dézinguer de tous les côtés, quoi.
Et justement, c'est ce qui.
Marine, remix.
Oui, non, mais pardon, je voulais juste revenir sur la petite différence sujet-thème. Je suis d'accord avec toi, Marine. C'est, pour moi, le film, c'est sur la haine. Mais la thématique, pour moi en tout cas, le parcours émotionnel, c'est sur la réconciliation, mais c'est un film sur la haine, je suis tout à fait d'accord.
Mais là, justement pour rebondir sur ce qu'a dit Sarah, pour moi la fin, elle est fausse, elle est pas bonne, elle est pas raccord avec le reste du scénario, parce que justement c'est la scène à laquelle j'ai pas du tout accroché, c'est-à-dire qu'il rentre, il est brisé quoi, justement il a tué, il n'est plus humain, il a été complètement déshumanisé par tout son parcours, et on a l'impression qu'à la fin du scénar, ils ont lâché en disant allez quand même, petite note d'espoir, il va partir avec cette femme et ce gamin. Sauf que moi j'y crois pas, c'est pas du tout raccord avec le reste du film, je j'y crois plus du tout en fait. À ce moment-là, j'ai lâché. Bon, heureusement, c'était le dernier plan. Mais le film est sur le fait que ça, c'est ce que tu disais, c'est réciproque. C'est à tuer nos enfants, on va tuer les tiens, etc. Et c'est incessant et que ça continuera comme ça jusqu'à la fin des temps en fait. Et pour moi, cette dernière scène, là, je rejoins complètement Fiona. Pour moi, c'est les bisounours. C'est-à-dire que je lâche mon propos et j'ai pas la foi d'aller jusqu'au bout et d'assumer mon message en disant cette nation, elle s'est construite sur cette haine-là qui est et qui fait que ce film parle de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et que c'est toujours d'actualité et que là il s'est dit ah non mais quand même allez petite touche d'espoir et qu'on sentait effectivement comme ça puisqu'il se comporte de manière assez civilisée pendant tout le film et vraiment pour moi à la fin c'est là où je rejoins Fiona sur les bisounours quoi.
Non, Fiona.
Alors, pour cette scène finale, moi, je l'ai trouvée extrêmement cliché sur le quai de la gare et tout ça. Les au revoir, tout le monde part. Donc
avec le train le plus long du monde.
Voilà, exactement, ouais. Il a le temps de changer deux, trois fois d'avis. Hein,
et de marcher, de le rattraper en marchant.
Ouais, on sait pas.
Mais bon, il est mort, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé ça donc très, très cliché. Et je trouve justement aussi, je parlais des bisounours, c'est que tout le monde se pardonne très vite. Même la mère de famille, celle qui a vu, donc, dans cette première scène que je trouve très réussie pour le coup.
Non.
Mais moi, j'ai trouvé même si dès que tu vois les gamines en train de réviser leur grammaire, tu sais qu'ils vont se faire buter parce que clairement, quand t'as une petite scène de vie comme ça, toute mignonne, et tu dis ah les adverbes, tu sais bien qu'il va y avoir une petite merde qui arrive juste derrière.
Non, attends, juste pour poursuivre cette scène, le mec voit les Indiens arriver, il sort son fusil, donc il est à l'abri derrière sa maison, il se met complètement à découvert. Ouvre ta fenêtre, mets ton fusil sur le bord de la fenêtre et essaye d'en avoir un ou deux.
Oui, mais il est pas caractérisé comme un cow-boy, c'est caractérisé comme un père de famille qui coupe du bois.
Un Américain qui coupe du bois.
Oui, mais quand même, là, sa stratégie de défense est complètement nulle.
Oui, mais
alors,
ça...
la preuve, tout le monde meurt. Donc...
Oui, mais ça va avec le personnage. On t'a jamais dit que c'est pas Joe Blocker, le type. C'est d'ailleurs pour ça que Joe Blocker, lui, s'en sort et pas le père de famille au début du film.
Joe Blocker, on sait pas comment il s'en sort. Parce que lui aussi, les balles ont une espèce de magie, rien ne le touche. C'est impressionnant.
Il a un petit effet James Bond.
Oui.
Il faut que le personnage dure jusqu'à la fin du film. Donc, on en reparlera dans Tomb Raider aussi, les balles magiques qu'évitent les gens.
Et non, juste par rapport. Ce qui m'aurait intéressé par contre, c'est de voir, au lieu d'avoir cette scène sanglante au début avec des méchants d'une autre tribu indienne que Yellowhawk, moi j'aurais voulu voir les scènes de meurtre de Yellowhawk. Parce que là, j'aurais du coup. Était vraiment avec Joe Blocker en disant « Mais mince, mais ce salaud, mais je l'ai vu faire des choses horribles !» Et de voir, j'aurais été beaucoup plus attachée à voir comment les deux vont passer outre ça, en ayant vu la part sombre de Yellowhawk qu'on nous a décrite, mais qu'on n'a jamais vue.
Je suis totalement d'accord avec toi, Fiona. Et justement, en plus, je trouve qu'ils avaient l'occasion de le faire. C'est quand les deux femmes se font kidnapper, et qu'ils sont fait kidnapper par des Américains, des gros beaufs qui vont les violer dans leur coin. Et après, ils disent « Bon, on va faire une équipe pour aller les chercher. » Et toute la violence étant off, ils rentrent dans une tente et on voit rien. Et justement, là, je me suis dit, on va enfin voir. Parce qu'au début, ils insistent sur le petit vieux qui a un cancer en disant, oui, mais c'est un tortionnaire, il arrache les yeux des gens, il les fait manger. Là, c'était l'occasion de montrer la violence de ce mec. Et en fait, non. C'est en off. Et donc, je dis, oui, mais ça aurait été deux ennemis, il y a un énorme passé. Et on ne voit rien de tout ça. On voit juste Joe Blocker tuer tout le monde avec un flingue.
Il n'y avait plus de budget.
Elle est très étrange, cette scène. Que tout le combat se passe dans les deux tentes.
Enfin, il tue les deux Indiens, ça aussi, c'est en off.
Quels Indiens?
Les Indiens qui ont tué la famille
les
de la
Comanches.
Oui,
la revanche
a été faite en off. Tous les meurtres qui sont réalisés par les Indiens sont toujours joués en off.
Ouais. Oui, moi, il y a une scène que j'ai pas compris quand ils arrivent, ils voient un des Comanches pendu. Joe Blocker dit j'aime pas être humilié.
Parce que c'est l'Indien qui
a fait ça.
Il a profité du fait qu'il dormait ou je ne sais pas, pour aller les tuer en fait.
C'est un peu pour dire justement, je pense qu'ils avaient peut-être peur, la prod, de se dire oula, attention, on veut pas dire les méchants Indiens.
Mais pourtant, ils sont échinés à mettre deux tribus d'Indiens différentes pour dire on ne parle pas de tous. Hein. Les Indiens vraiment méchants, mais il y a aussi les Indiens un peu gentils.
Et du coup, on dit, et en plus, les Indiens gentils, quand même, et ben, ils tuent les Indiens méchants. Donc, du coup, ça va. On n'a pas du mal, les Indiens. Enfin,
on peut le tirer vers quelque chose de ridicule, en effet, de vraiment, il n'y a que les Comanches qui sont des vrais méchants dans le film. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment la question du film. Enfin, je trouve que c'est pas l'intérêt en fait, même si je suis d'accord, enfin, je trouve que la promesse de départ est pas très très bien tenue. Il y a tout de suite, enfin, on nous dit que la réconciliation est impossible quasiment, et en fait, c'est vrai que
elle se déroule toute seule.
Ouais, ça vient assez rapidement. Même cette femme qui, je trouvais ça hyper fort qu'elle soit devenue folle comme ça, qu'elle pense que ses enfants étaient en train de dormir alors qu'ils avaient été tous assassinés, qu'elle tenait encore son bébé un jour plus tard, plein de sang dans ses bras, et tu te dis, mais elle, il va lui falloir bien une heure et demie au moins pour justement faire un trajet de retour vers le... Soit en gros c'est le suicide, d'ailleurs c'est ce qu'elle essaye de faire à la scène, je sais pas quoi, 18, soit elle va avoir beaucoup de mal à ressortir de son mutisme, de son traumatisme, et alors dès qu'on lui offre une robe des Indiens, c'est ah mais merci, mais d'accord, mais on va faire la vaisselle ensemble, tout se passe bien, il n'y a aucun
souci.
C'est vrai
qu'en plus elles vont faire la vaisselle ensemble.
J'étais même surprise que Joe Blocker aille lui donner cette robe. Enfin, pour moi, lui, à ce moment-là, je le trouve pas cohérent. On lui donne ça, il devrait la foutre au feu. En lui disant, enfin, je vois pas pourquoi.
Il en a pas contre les femmes.
Non, mais c'est presque un affront contre les Indiens.
Oui, mais il dit quand même enlevez-moi leur tresse immonde.
Oui.
Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'est aussi le problème.
Il était temps quand même, le premier. Camille.
Je trouve que c'est aussi le problème du film, c'est-à-dire que on montre que donc ces gens qui y a une haine monstrueuse et ça rend énormément de personnes folles. Et en fait, les deux héros. Ben, ils gèrent plutôt bien. Hein. Je trouve qu'ils gèrent même. Ils sont trop parfaits, en fait. Pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de trajectoire à avoir pour eux. Parce que, elle, pareil, oui, effectivement, on lui donne une robe. Oh, les Indiens, je les adore. D'ailleurs, à un moment donné, l'Indien le félicite. Dis donc, vous avez un très bon esprit. Bah oui, c'est clair. Toute ma famille a été massacrée il y a deux jours, mais je vais beaucoup mieux. Hein.
Oui,
merci.
Mais elle a été massacrée par des gens qu'eux-mêmes ont tués. Et pour revenir, c'est que la fille va pas bien. Mais il y a quand même un des personnages qui nous l'explique. Genre, on voit vraiment, ah, tiens, ces bébés morts. Et c'est un des personnages, un des potes de Joe Blocker, fait je crois qu'elle est détruite. Oui, bien vu.
En fait, il avait tort, parce que 5 minutes plus tard, ça allait beaucoup
mieux.
Ouais,
en fait, elle va mieux.
Pour répondre à Camille, moi, je pense qu'au niveau du scénario, le problème, pour moi, c'est la temporalité. C'est-à-dire que toutes les étapes sont bonnes. Vraiment, moi, j'étais très impressionnée par les scènes de Rosamund Pike, quand elle devient folle, effectivement, les scènes que décrivait Sarah au début, où elle a perdu ses enfants, etc. C'est vraiment très bien. Mmh. Et en fait, toutes les étapes sont bien placées. Ça, c'est vraiment là, psychologiquement, on suit. Le problème, c'est que ça se passe dans un temps tellement réduit, en tout cas on a l'impression que ça se passe dans un temps tellement réduit du coup on n'y croit pas et on lâche, on se dit c'est pas possible, comme dit Camille qu'elle va beaucoup mieux en deux jours, c'est, alors que a priori le voyage qu'ils font pour aller dans le Montana doit être beaucoup plus long, donc il y a, je pense, un problème de temporalité qui n'a pas été gérée correctement pour te faire accepter qu'en fait il leur a fallu je sais pas un an de voyage
oui pour, mais ils n'ont pas fait un an de voyage mais je suis d'accord
on a du mal justement à placer combien de temps dure l'histoire du film, je trouve.
Remix.
Oui, moi je voulais juste rebondir sur une chose un point technique du scénario. Je trouve que la principale faiblesse du film c'est le troisième acte, je sais pas si vous êtes d'accord, mais à partir du moment où on a ce climax où on sait qu'ils arrivent dans le Montana et où le chef indien meurt, j'ai vraiment pas compris par contre cette relance, cette espèce de fausse relance avec la famille indienne là, qui est juste fonctionnelle, qui veut les buter en disant vous les enterrez pas sur mes terres.
C'est pas des Indiens, c'est génial. Moi, au contraire, j'ai trouvé là, pour moi, la thématique elle est affilée jusqu'au bout. C'est que même que ce soit les Indiens, les militaires, les colons américains, il y en a pas un en fait pour justement dire on pardonne. Allons de l'avant, enterrons ce mec-là sur nos terres et passons à autre chose.
Oui, Armand, qu'est-ce que t'as pensé de ça?
Au revoir. Non, mais j'ai eu l'impression d'un. Enfin, il m'a ému, mais il aurait pu beaucoup plus m'émouvoir. J'ai eu l'impression d'un rendez-vous un peu raté, parce que effectivement, il y a des étapes psychologiques, mais j'ai pas eu la sensation d'un débat entre la violence et le pardon. C'est-à-dire que tout était posé pour aller dans le sens du pardon et qu'à aucun moment il y avait un retour vers la violence. Et j'avais presque envie qu'à la fin du film, on me pose une scène où le chef indien faisait quelque chose de tellement atroce que toi, spectateur, tu te retrouves dans le même état d'esprit que Christian Bale au début du film. Et que malgré ça, il pardonne. Et ça m'a touché, mais je sens que ça aurait pu me toucher beaucoup plus s'il y avait eu ce débat-là, si moi-même j'avais été torturé, alors que j'ai eu l'impression d'un fleuve un peu tranquille.
Bon, très bien, on n'a pas le temps de parler de moi, la scène qui m'a fait sortir du film, celle où il chope l'ancien soldat américain qui promet qu'il va se rattraper et tout, il est attaché à un arbre, et il fait non, mais détache-moi, je suis vraiment malade, il le détache, et évidemment il se fait tuer.
Mais et ne crie pas, c'est vrai.
Ne détachez pas les gens des arbres comme ça.
Il y a 4 ou 5 actes comme ça dans le film qui sont vraiment stupides.
Ouais. Non, on finit par le tour final. Fiona, qu'est-ce que tu as pensé?
Non, je voulais juste parler, qu'on dise 2 secondes sur Timothée Chalamet.
Oui.
Et sa présence dans le film.
Oui.
Je t'en prie, finis par ça.
Eh bien, merci papa d'avoir appelé le producteur. C'est bon, tu es dans le film, mon chéri. Wouhou, tu vas jouer le cobaye.
Bravo, comme tu peux le voir, les scénaristes ont vraiment géré ça avec toute l'amertume possible. T'es là pour rien et on va te tuer très vite.
Et on va te le dire en plus.
Et en plus, on le dit, tu es là parce que tu connais, tu es fils de.
Oui, c'est vrai qu'il regarde le mec et il dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Oui. Tout le monde se pose la question, il dit, oui, c'est vrai.
Et là, t'as Christian Bale qui dit, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide.
C'est les prods.
La dernière fois que je t'ai vu, tu étais en Italie, dans les bras d'un autre homme.
C'était décalé, quelques petits mots de français.
J'ai trouvé que c'était un beau film, c'était émouvant, mais effectivement, ça aurait pu aller plus loin et les personnages auraient pu être un peu plus intéressants. Les personnages, deux personnages principaux pour moi.
Ok, Sarah ?
Oui, moi j'ai quand même beaucoup aimé, donc je recommande le film.
Ok, Armand ?
À voir, malgré cette sensation de rendez-vous raté dont j'ai parlé.
Remix ?
Moi je reconnais qu'il y a quelques petits moments un peu faibles, mais j'ai vachement aimé, j'ai été hyper embarquée dans le film et je le recommande.
Ok, et Marine ?
Pareil, je le recommande.
À part la fin.
Embarqué, à part le dernier plan, mais bon après.
Partez 5 minutes avant la fin et c'est fini.
Si on aime le côté un peu tendre et bisounours, why not quoi.
Encore un film Disney Channel après de la semaine dernière.
Il y a toujours Timothée Chalamet, donc.
C'est vrai. On va passer à Radia, écrit par Nabil Ayouch et Mariam Tounzani. Et c'est Sarah qui va nous le pitcher.
Alors Radia, c'est l'histoire de 5 personnages dont les trajectoires se croisent à Casablanca, à différentes époques, dont l'époque actuelle ou en tout cas récente. Et ces 5 personnages, ils essayent tous de suivre un rêve, un destin, et ils vont tous se heurter soit à un père, soit à un mari, soit à la société marocaine en général.
Très bien, Fiona.
Alors, ce film a une certaine élégance, je trouve. j'essaye. Non, je trouve qu'il est, joli, il y a des scènes qui sont vraiment chouettes. Malheureusement, ce que j'ai aimé dans le film n'a rien à voir avec le scénario. Voilà, le jeu des acteurs ou la beauté, l'élégance de certaines scènes, et les décors, les paysages qui sont très belles.
Mais quelle scène, par exemple, t'as plu?
J'adore la scène du démaquillage à l'envers. Il y a une scène de démaquillage à l'envers. Voilà. Non, mais pour revenir sur le scénario, moi, je suis un peu perdue parce que voilà, c'est un peu une chronique, c'est des destins croisés, mais je sais pas trop ce qu'on me raconte. Et du coup, à part me dire que le Maroc,
Attends, c'est ce qu'il y a de plus clair dans le film.
Bah, pour moi, ça veut dire le Maroc, ça craint. Voilà.
Oui.
Ça craint, voilà.
C'est un peu le message du film.
Est-ce qu'on avait besoin d'un film pour nous dire que le Maroc, ça craint quand t'es une femme, quand t'es homosexuel, quand t'es juif. Est-ce qu'on avait besoin de le savoir? Peut-être qu'il fallait le rappeler.
Donc c'est vrai que. Je parlerai des points positifs après, mais c'est vrai que, comme dit Fiona, le problème de ce film, c'est que ça nous dit des choses qu'on savait absolument. Quoi. Oui, être juif au Maroc, c'est dur. Oui, être homosexuel au Maroc, c'est dur. Oui, être une femme qui aime montrer ses cuisses dans la rue, c'est dur. Est-ce que tu as besoin de faire un film de 2 heures pour nous dire ça? Je ne pense pas. Clara.
Alors, en fait, moi, c'est un peu schizophrène sur Razia, parce qu'on m'aurait dit, c'est le film de l'année. J'aurais voulu évidemment pointer tout ce qui ne fonctionnait pas dedans. Mais comme, si on dit qu'en gros, ça ne sert à rien de faire ce film, moi, j'ai envie de le défendre. Qui es-tu, Guillaume, pour dire que, en gros,
c'est pas,
c'est pas intéressant de parler d'une femme qui, quand même, n'a pas le droit à l'avortement, qui, en gros, que son mari force à interdit de danser devant des gens, interdit de fumer. Enfin, qu'en gros, ces cinq personnages qu'on te montre, c'est pour te montrer à quel point leurs libertés individuelles sont mises en danger, brimées, et comment en fait la frustration, parce que je pense que c'est ça la thématique du film, qui est engendrée par ces lois et ces dictats moraux partout au Maroc, engendre la guerre civile, engendre le mal-être, engendre la tristesse, le chagrin, toutes ces vies brisées, quoi. Après, oui, c'est une chronique, et d'ailleurs je me suis beaucoup interrogée parce que je me demande si j'ai vraiment trouvé une fois un film qui racontait comme ça un kaléidoscope de destin, si j'ai vraiment trouvé que ça pouvait être un grand film, parce qu'en fait on se perd un peu, chaque personnage en soi est intéressant, ils sont très différents, je trouve. Il y a Salima, qui est jouée d'ailleurs par la scénariste du film, la co-scénariste, qui est la femme forte et qui malgré tout doit se plier à ce que lui dit son mari, qui peut pas avorter, qui doit se faire masser le ventre et boire un breuvage dégueulasse si elle veut avorter, qui est brimée elle aussi. Il y a le gay qui est fan de Freddie Mercury, il y a la gamine qui est dans un milieu social très privilégié, mais dont la mère ne s'occupe pas, qui se scarifie en secret et qui a qu'une envie, c'est de coucher parce qu'on lui a interdit. Parce qu'au Maroc, c'est interdit de coucher sans être marié. Et il y a l'instituteur qui essaye d'apprendre à ses enfants à regarder la nature, à explorer le cosmos, et on arrive dans sa classe, on lui dit, en fait, il faut parler une autre langue parce que le berbère, en fait, c'est interdit à partir de maintenant. Donc je trouve qu'ils ont des enjeux tous très très différents. Après, c'est vrai que je me dis qu'on aurait peut-être pu suivre seulement ça Lima, peut-être que ça aurait fait un film plus marquant, plus développé, parce que là, on a un petit manque sur chacun, on sait pas tellement à chaque fois comment se termine leur trajectoire. Fiona, tu veux peut-être ajouter quelque
justement,
chose.
C'est ça, moi je me dis, effectivement, ils sont mis en 5 personnages, 4 ou 5, sont intéressants, et on a envie de les suivre un peu, on a envie d'en savoir plus, mais du coup, le fait que ce soit autant croisé, il manque des billes, et du coup, je m'intéresse un peu, mais je perds de l'intérêt pour chacun, alors que peut-être chacun aurait mérité un film, peut-être. Mais au moins ça me manque d'histoire. Voilà, ça me montre des choses que je savais déjà un petit peu. C'est peut-être pour ça que ça m'ennuie aussi. Et il y a quand même des scènes qui m'ont dérangée, que j'appelle des scènes de réal, pour se faire plaisir. Justement, cette scène de démaquillage en reverse, oui, pour moi, ça peut être qu'un kiff de réal. Je ne sais pas quel est le message là-dedans. Est-ce que c'est pour montrer que peut-être au début, on croit qu'elle s'est fait frapper, mais en fait, non, elle se maquille. En fait, je crois que j'ai besoin qu'on me prenne un peu plus par la main pour me pointer des choses un peu plus précises que juste le Maroc peut brimer certaines personnes. Enfin, la culture marocaine, etc.
Non mais, pour revenir, je n'ai pas dit que c'était pas intéressant. J'ai dit que le média, cette façon de faire un film, j'aurais vu un documentaire là-dessus, ça m'aurait très bien plu. C'est-à-dire, quel intérêt de faire un film? Je pense que ces personnages existent vraiment. Quel intérêt de le scénariser et d'en faire un film pour quelque chose qu'on sait déjà?
T'aurais peut-être pas vu le documentaire. La fiction, ça sert aussi à raconter des histoires vraies. D'ailleurs, c'est pas pour rien que maintenant, on fait que des films inspirés d'histoires vraies. Non, mais je veux dire, oui, il peut aussi y avoir des excellents documentaires là-dessus. Il se trouve que moi, j'en ai vu à peu près aucun. Et que du coup, j'ai adoré avoir des personnages aussi différents, avec des problèmes aussi divers, qui réagissent pas de la même manière.
Mais c'est vrai, mais du coup, moi qui ne regarde pas de documentaires, j'aime bien voir qu'on m'amène, entre guillemets, le documentaire au cinéma. Seulement, là, moi, j'ai rien appris. J'ai rien appris. On m'a montré ce que je savais déjà, on m'a rappelé que c'est dur pour certaines personnes, mais je me suis pas dit c'est dingue, il se passe ça. Enfin voilà, donc du coup, j'ai pas l'intérêt du documentaire à la fiction, j'ai pas non plus mon plaisir de fiction assouvi parce que j'ai pas eu d'histoire, donc du coup, je reste sur ma faim. Par contre, j'ai adoré la BO parce que j'aime beaucoup Queen. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a du Queen, dont We Are The Champion en acapella, qui a été osé. Mais pour revenir sur les points positifs quand même, parce que globalement je trouvais le film pas mauvais, mais c'est tout le début justement, et pour moi j'espérais que le film allait se concentrer uniquement sur ce personnage, c'est le personnage du prof, qui est vraiment super bien, et qui lui, alors c'est un peu Monsieur Parfait, mais ça me dérange pas, il est donc dans une école berbère avec des petits-enfants, il leur parle de l'espace, il leur parle de tout ça, et après on suppose un imam qui vient lui expliquer qu'à partir... Après, je suis d'accord avec lui en disant c'est vrai qu'il vaut mieux que dans le même pays on parle la même langue. Donc, qu'il parle l'arabe, moi, ça m'a pas choqué. Mais c'est vrai que c'est là où la scène est super, c'est qu'il sent qu'il va se faire virer, et quand il revient à l'école, il voit qu'il y a quelqu'un qui l'a remplacé et qui a amené des tapis de prière. Et là, rien que cette scène, on dit ah, on a compris, ok, on a compris, l'islam a pris le pouvoir dans ce pays. Et je crois que Fiona, d'ailleurs, tu as une théorie sur cette scène, et qui dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit ah, mais c'était à cette époque-là qu'on aurait pu faire quelque chose, ouais. Et si on s'était levé à ce moment-là, on n'aurait pas vécu tout ce que les personnages vivent dans l'époque contemporaine.
C'est exactement ce que je me suis dit, parce que oui, on voit que ce prof, en plus, il part, il abandonne. Et tu te dis peut-être que si lui n'avait pas abandonné, voilà, les choses auraient peut-être changé et ses libertés individuelles n'auraient pas été retirées. Enfin, c'est un peu idyllique. Mais c'est vrai que ce personnage était vraiment très intéressant et j'aurais voulu qu'on se concentre plus sur lui, parce que voir la transition me paraissait plus intéressant.
C'est ça.
Que de voir les conséquences de cette transition.
C'est ça, en fait, le constat. On était déjà au courant. Tout ce qui montre dans ce film, c'est-à-dire les problèmes qu'ont les femmes, les problèmes qu'ont les juifs, les problèmes qu'ont les gays, on est au courant. Ça aurait été plus intéressant de suivre le prof et de voir comment le pays a changé, comment il est arrivé à cette situation qu'on connaît. Ça aurait été, je pense, nettement plus intéressant.
Bah ça, c'est vrai que c'est toujours la question que je pose. Enfin, je sais pas si toi, t'as déjà vu des très grands films, des chefs-d'œuvre qui sont fondés sur une chronique qui présente des portraits de personnages. Moi, ça me faisait penser à Babel, par exemple. Pareil, je trouve que j'aime bien ce film, mais je trouve qu'il est pas. Il y a aucun personnage qui m'a profondément marqué, parce que, en fait, on les suit 20 minutes chacun. Et peut-être que, je sais pas si c'est. Mais c'est pas une question de durée, c'est aussi une question que, comme c'est des tranches de vie, on les pousse peut-être pas au bout de leur trajectoire, peut-être.
Ah, du coup, on peut se poser la question de est-ce que la chronique est anti-scénaristique ?
Non, pas la chronique, c'est pas vraiment la chronique, parce que tu peux avoir. Par exemple, Nos meilleures années, c'est une chronique, et pourtant, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu.
La chronique divisée en plusieurs personnages, voilà, en fait, fragmentée.
Non, c'est une question.
On peut se poser la question.
Bon, et on va quand même parler de cette dernière scène que personnellement je n'ai pas compris, où pas tous les personnages, mais beaucoup de personnages se réunissent à une fête. Et donc l'homosexuel qui, en plus, je n'arrive pas à comprendre sa problématique, parce que lui, ce qu'il veut, c'est devenir chanteur, et ça se passe plutôt bien pour lui. C'est-à-dire, d'accord, son père se fout de sa carrière, mais il lui dit je commence à être interviewé, il joue dans des bars, les gens apprécient sa musique. D'ailleurs, il joue une musique qui est vraiment bonne, en plus, et il y a une scène où, et honnêtement, il chante en arabe. C'était
sa musique est chouette, ouais.
Était vraiment super bien. Moi qui n'aime pas trop les musiques dans les films, là, honnêtement, c'était vraiment bien. Donc sa carrière va bien, et là, il se retrouve à la fin, il joue les musiciens un peu d'opéra pour une fête, dont justement participe une des personnages qui est la jeunesse dorée du Maroc. Et là, il y a des petits jeunes, des petits cons qui emmerdent une femme. Et là, il, d'un seul coup, il se lève, il se met à défendre et il tabasse un jeune, mais à mort. C'est-à-dire, il lui éclate la tête partout. Et là, d'un seul coup, tous les musiciens se lèvent et ça finit en baston général. Là, je n'ai pas compris cette scène.
Je pense que c'est ce que disait Sarah, c'est de la frustration. Mais c'est vrai que bon, la frustration, c'est.
Moi, tout se passe bien dans cette.
J'imagine
dans
que c'est par rapport à son père. Mais c'est vrai que du coup, il faut faire le lien tout seul comme un grand dans sa tête, quoi.
C'est pas que par rapport à son père. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment. C'est sur la lutte des classes aussi. C'est-à-dire que quand il. Parce que t'as vu pourquoi il lui défonce la tête à ce gamin. C'est parce qu'il croit qu'il y a une chanteuse et il l'humilie devant tout le monde et il la touche. Et voilà, alors que Lana, elle est venue chanter et elle peut rien dire parce qu'elle a absolument besoin de son cachet à la fin de la fête. Et que c'est des gamins de 15 ans qui ont une piscine et des serviteurs partout. Et qu'en fait, les mecs, ils supportent plus, au bout d'un moment, ils ont envie de défoncer du riche. Pour moi, c'est ça.
Mais tu vois, ça, tu nous le dis et tu l'interprètes comme ça et je l'entends. Et j'entends ceux qui manifestent et j'entends ceux qui ne manifestent pas. Ça, c'est fait. Mais le problème, c'est que lui, on l'a jamais vu être sous pression sociale comme ça. Donc, on comprend pas pourquoi c'est son combat à lui.
Bah, si, il y a les scènes où à chaque fois, il marche une place et il voit de ses yeux tous ses amis en train de se faire raser le crâne. Il voit la violence arriver. Mais lui, personnellement, n'a pas énormément de conflits.
Je me suis demandé, est-ce que le mec qui fracasse à la fin, c'est un des mecs qui l'avait un peu insulté, traité de tapette
en. Ça, j'ai pas l'impression, je sais pas en fait.
Est-ce que j'ai l'impression plus jeune. Hein.
Mais là, c'est lié toujours à ce problème de
chercher
de personnages, de vouloir à tout prix rassembler, même pas tous les personnages, mais aller les trois quarts à cette fête, en se disant ça va faire un super lien, ça culmine lors du climax de la fête, parce qu'il y aura le juif, il est restaurateur, donc ce sera lui qui fera le traiteur, celui qui chante Freddie Mercury, il fera la musique, et la gamine, elle dansera en disant je suis prête à coucher avec qui veut.
Il manque la femme enceinte.
Il manquait la femme enceinte.
Il manque la femme enceinte.
J'ai cru qu'ils allaient nous sortir une astuce scénaristique. Je passais par là.
Oui, on se dit, elle va forcément arriver à un moment, ça va être la mère d'une des gamines. Enfin, non, on sait pas trop. Mais en fait, ça, je pense que la thématique est suffisamment forte et ce qu'il veut raconter pour qu'il y ait cette fête qui est un peu amenée de manière artificielle pour relier ce qui se passe entre chacun de ces persos.
Mais pour le point de vue Et là, c'est vrai que c'est Fiona qui me l'a dit, donc je rends à César ce qui est à César. La meilleure réplique du film, c'est justement à la fin de la fête où tout le monde se casse la gueule. Et c'est le mec qui arrive et qui est un des serveurs, qui est fan du film Casablanca et qui est extrêmement fier que tout le Casablanca ait été tourné donc au Maroc. Et là, le juif lui dit, mais en fait, aucune scène du film Casablanca n'a été tournée au Maroc.
Ça, c'est la meilleure réplique du film.
Je suis tout à fait d'accord. J'ai adoré cette réplique parce qu'effectivement, t'as ce Marocain qui adore Casablanca. Blanca et qui se demande où est-ce que ça a été tourné. Pour lui, c'est la beauté de son pays. Et quand, quand c'est à la fin du film, son patron lui dit, au fait, qui avait toujours entretenu, enfin, il l'avait jamais contredit dans son petit rêve.
C'était sa fierté nationale. Quoi.
Voilà, lui avait laissé croire ça. Quand il lui dit, au fait, aucune des scènes de Casablanca n'a été filmée à Casablanca, je trouve que c'est très puissant. Et pour moi, ça veut dire, en fait, ouais, ton pays, même dans tes rêves, il n'existe pas, en fait.
Voilà, c'était.
Oui, c'est horrible. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire qu'il se passe énormément de choses à Casablanca, mais qu'en fait, on peut même pas venir pour les raconter, quoi. Parce que c'est trop dangereux, je sais pas, de tourner la fin.
Mais sur un point de vue réaliste, comme le juif est là où tout le monde se casse la gueule, et qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il dit, tiens, je vais jouer du piano.
Oui.
Excusez-moi, là vraiment.
Ah oui, mais parce qu'il s'en fout, parce qu'en fait, lui, le mec, à part être sympa avec s'occuper de son père malade. Ouais, ouais, bien sûr, je suis d'accord. Mais en fait, il y a un côté, je danse pendant que le monde s'écroule, tu vois, c'est vraiment un côté nos futurs. Hyper triste et à la fois qui est contrebalancé par l'espoir à la fin que, bah, comme la nana finalement a renoncé à son avortement, on la voit les pieds dans l'eau, un peu genre, enfin voilà, enceinte, très enceinte, donc tu te dis, il y a quand même un espoir, il y a quand même un avenir. Après, on sait pas trop où elle est, on se dit, ça se trouve, elle a traversé la Méditerranée, on ne sait pas. Enfin, je sais pas si elle y reste. Parce qu'elle partait avec une valise quand même. Donc,
pour moi, elle était quand même encore au Maroc, mais la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, elle n'a pas enterré l'oisillon qu'un enfant complètement randomly lui a juste donné, un oiseau mort.
Est-ce que tu peux nous expliquer cette scène, Sarah ? Non. Quelqu'un arrive avec un oiseau mort, il n'a jamais vu cette dame, il lui donne, elle le prend.
Je pense que c'est très symbolique, mais je t'avoue que je ne me suis pas beaucoup interrogée sur cette scène. Après, je trouve que voilà, t'as la boucle est bouclée, c'est-à-dire ça commence par une espèce de communion avec la nature. On voit que le réel, il aime son pays, quoi. T'as des montagnes magnifiques, t'as l'espoir de tous ces gamins qui ont envie d'apprendre, qui sont mignons, il y a beaucoup de tendresse, etc. Et ça se termine pareil par à nouveau un avenir qui est fondé sur la jeunesse, sur les enfants, etc. Donc, on a l'impression qui garde un optimisme et pourtant qui fait un peu un portrait au vitriol d'une ville et d'un pays plus globalement où il y a peu d'avenir quand même pour les jeunes, pour les femmes, pour les homosexuels, pour beaucoup de gens, quoi.
Alors on arrête là pour ce film. Un dernier mot, Fiona ?
C'est un film élégant sans scénario.
Moi, je suis d'accord avec Sarah.
Mais très bien. Rappelons que tu n'as pas vu le film, hein, Camille. Sarah ?
Moi je recommande le film parce que moi je connais très peu en fait le Maroc, tout simplement, contrairement à Fiona qui connaît bien ce pays. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a raconté beaucoup de choses. J'ai trouvé que voilà, ces portraits, ils étaient quand même ça me racontait des choses et du coup j'ai bien aimé le film. Je trouve qu'on est plongé dans une atmosphère dont j'ai pas tout le temps l'habitude. Ça m'a fait voyager, les films c'est aussi ça pour ça, aussi pour ça.
Regardez, moi j'ai beaucoup apprécié un cinquième du film, c'est-à-dire le personnage du prof, et je pense que ça aurait dû se concentrer là-dessus et le reste était malheureusement convenu et ça disait des choses qu'on savait déjà. On arrête là pour ce film et on va finir avec le gros morceau de la semaine, Tomb Raider. Alors, j'ai mis écrit par beaucoup de gens parce qu'ils sont mis beaucoup pour écrire ce film. On a Geneva Robertson-Dovert, Alistair Sydon et Evan Daughtry et c'est évidemment adapté du jeu vidéo éponyme et c'est Fiona qui va nous le pitcher.
Alors, Tomb Raider, c'est l'histoire de Lara Croft, 21 ans, qui vit de petits jobs alors qu'elle est assise sur une immense fortune, celle de son père Richard. Ce dernier a disparu depuis 7 ans et Lara refuse de signer l'acte de décès et donc de toucher son héritage. Et quand elle se décide enfin à signer cet acte de décès, elle reçoit en héritage un message secret de son père qui l'amène à découvrir qu'il avait une vie secrète, une vie d'explorateur. Et elle décide alors de partir sur les lieux de sa dernière expédition pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi pas de le retrouver si ce dernier est encore vivant. Qui sait ?
Qui sait ? Donc je préviens tout de suite, je ne vais pas être objectif parce que Tomb Raider, c'est une énorme part de mon adolescence. J'ai commencé à y jouer dans les années 90, donc forcément, dès qu'on dit Tomb Raider, pour moi, ça m'excite, voilà, c'était le mot qu'il fallait dire. Les deux films avec Angelina Jolie étaient des bouses absolues et j'avais très très peur de dire est-ce que l'adaptation va être extrêmement ratée. Eh bien, j'ai été plutôt vraiment ravi de ce film, enfin ravi, c'est un grand mot, mais j'ai été plutôt content de ce film. Je m'attendais à une catastrophe alors qu'en fait c'est un film moyen plus. Et franchement, pour une adaptation de jeux vidéo, c'est vraiment pas mal. Camille.
Ben, je dirais que oui, moyen, plus, c'est pas mal, ça sait se regarder. Je trouve que l'objectif de Lara est clair, que son problème, ben, c'est qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de la mort de son père. Ça aussi, c'est très clair. Après, on en arrive pour moi au gros problème du film, qui est, en gros, ne faites pas le deuil des gens que vous aimez, parce qu'ils sont vivants mort. Quelque part.
Ouais, exactement. C'est bon, bah oui, c'est ça, elle le retrouve, il n'y a même pas la moitié du film, il est toujours là.
C'est ça le problème, c'est que, en fait, ça parle de deuil, mais en fait, c'est ne faites pas le deuil. Parce qu'en fait, ils sont vivants. Les gens que vous aimez ne sont pas morts.
Ne désespérez pas.
C'est sûr. Alors, moi, j'ai pas du tout compris de quoi parlait le film.
Ah, bah si, ça parle de deuil, du fait que tu n'arrives pas à faire le deuil, sauf qu'en fait, ça ne marche pas.
Non,
pour moi, ça parle du deuil. Du deuil, du fait que tu n'arrives pas à faire le deuil de ton père, comme le mec sur le bateau qui va l'aider aussi. Parce que, pareil, il n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé avec son père. Sauf qu'en fait, ben, c'est pas du tout traité. Et c'est ça qui est vraiment dommage dans ce film.
Traité, mais c'est ça, ça parle de ça.
Pas tous en même temps.
Pour moi, c'est un film sur la croyance, un peu à sur toutes les facettes, mais je suis assez d'accord avec Marine. Enfin, moi, je sais pas de quoi le film veut me parler, en fait.
Alors, moi, j'aurais plutôt dit que c'était une. Il lui dit plusieurs fois, les Croft ont une mission. Donc, moi, j'ai plutôt pensé que la thématique, elle était de ce côté-là.
Le destin. Ouais.
Voilà, la destinée d'une famille et des explorateurs, des archéologues. Donc. Ouais, j'aurais plutôt été de ce côté-là, mais alors j'avoue que le deuil, tout ça, j'ai rien vu là.
C'est vrai qu'elle répète, pour aller dans son sens, elle répète « je ne suis pas ce genre de Croft
bah ».
Elle
oui.
va le devenir.
Et elle le devient,
l'histoire.
C'est-à-dire qu'elle devient son père. Quoi.
Alors, moi je crois que l'erreur, c'est de chercher une thématique, un film Tomb Raider.
Merci Fiona, c'est ce que j'allais dire.
On en a bien cherché une dans Call Me By Your Name, pourquoi pas dans Tomb Raider. Hein.
D'ailleurs, précision. Toi, Call Me By Your Name, bah moi c'est Tomb Raider, mais alors puissance 10.
Alors, il n'y a pas Timothée Chalamet dans Tomb Raider. C'est déjà
elle
bon
fait
point.
Du vélo
premier film.
Et la scène de caractérisation est trop longue, mais elle est bien quand même la scène.
Alors, est-ce que tu trouves, moi j'ai une question pour toi qui connais bien le jeu vidéo, est-ce que tu trouves que les deux premières séquences, c'est Tomb Raider? Parce que pour moi, elles n'ont rien à voir avec le jeu vidéo et le film. Toute la scène, elle fait la poursuite de vélo, elle va à son cours de box,
meilleur
tout ça,
moment du film.
J'étais là, génial, putain, c'est pas Tomb Raider en fait, ça a l'air cool. Et puis après, bon, elle trouve son carnet, là, la vidéo de son père avec la caméra qui a toujours de la batterie, on sait, alors que ça fait 7 ans qu'elle a disparu.
Ça me réveille, hein.
Oui.
Non, mais c'est vrai qu'on arrive au. Pour moi, un des problèmes du film, c'est que c'est extrêmement dur de faire une adaptation de jeu vidéo, puisque c'est basé sur le reboot qui a eu lieu. Avant Tomb Raider, c'était un peu Tintin, c'est-à-dire on ne savait pas qui elle était, on ne savait pas d'où elle venait, c'était juste elle partait à l'aventure. On ne lui posait aucune question, elle n'avait pas de parents, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas de copains. Elle était dans un endroit, elle cherchait un objet, point. C'était ça. C'était ça les anciens jeux vidéo. Et le dernier, ils ont fait un reboot, ils ont essayé de lui apporter une espèce de psychologie que le jeu vidéo essayait de faire. Le problème, c'est qu'un jeu vidéo, ça se finit en 20 heures. Là, il fallait faire un film d'une heure et demie. Donc évidemment, il y a énormément de personnages qui ont disparu. Ils se sont concentrés sur son père pour lui donner une espèce de mission, mais ils se sont dit on va pas oublier les fans de la première heure, c'est-à-dire moi, et on va quand même lui donner un objectif un peu pas magique, parce que justement, c'est ce que je reproche à ce film. Tomb Raider, c'est avant tout du fantastique. Elle affronte des momies, elle affronte des monstres dans les pyramides. Là, tout est extrêmement, pas logique, mais réaliste. Oui. C'est-à-dire que même
à la fin, c'est un virus.
C'est ça. Il nous parle d'une malédiction, parce que dans le jeu vidéo, attention, je vais spoiler le jeu vidéo, il y a une vraie malédiction sur l'île. Quand on arrive, on ne peut pas partir parce qu'il y a des vents contraires et il faut justement tuer en fait la prêtresse japonaise. Alors que là, non, là c'était juste, ils ont découvert un virus extrêmement puissant et ils l'ont caché. Bon, j'ai envie de dire pourquoi vous l'avez caché, il fallait brûler le corps si vous vouliez vous débarrasser de cette maladie. Je n'ai pas compris ne serait-ce que le principe des mecs de pourquoi cacher un corps.
Le scénario est blindé d'erreurs.
Remix.
Oui, non, mais surtout la Trinité qui cherche, qui veut absolument récupérer ce corps. Lara, en regardant deux peintures sur le mur, elle comprend que c'est en fait un sacrifice. Mais la Trinité était au courant de ce virus ou pas? Pourquoi la Trinité voulait
La Trinité suit la légende qui dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Ils ne savent pas ce que
ils
c'est.
Ils ne savent pas quoi?
Ah non, ils ne savent pas quoi.
Ah d'accord, très bien.
Une fois qu'il a qu'il voit que c'est le virus, pourquoi il veut le récupérer?
Mais parce que c'est une arme bactériologique, ça se vend extrêmement cher.
D'accord.
Mais oui.
Pardon, excusez-moi.
Oh là là, bah, tant que c'était pas compliqué. Hein. Oui, Claire.
Je sais pas par où commencer tellement. Pour moi, il y a. Enfin, pas grand-chose qui fonctionne dans ce film, au niveau du scénario, hein, tout du moins.
Parce qu'elle est quand même extrêmement belle, on n'est pas revenu là-dessus, oui. Mais.
On va pas débattre là-dessus, c'est sûr. Ses abdos sont incroyables.
Et son père est très beau aussi. Oui. Dommage que.
Ah bah voilà, son père. Parlons de son père.
Parlons de son père.
Merci. On a un personnage qu'elle retrouve donc au milieu du film et qui a quand même été seul dans la jungle pendant 7 ans. Et quand elle le retrouve, il a des problèmes psy. Ça dure à peu près 30 secondes.
Ouais.
Parce qu'en fait, il faut que papa soit gentil, alors qu'il y avait pardon, il y avait de très, enfin quelque chose, une bonne relation à créer entre eux en fait, sur justement la croyance, jusqu'où aller. C'est quand même un personnage qui pense qu'il y a le mal dans ce tombeau, quelque chose qui va détruire le monde. Et finalement, jamais sa relation avec sa fille va être remise en cause par rapport à ça. Il y a un moment, il y a une scène, par exemple, où ils sont en train de lutter pour essayer de ne pas mourir dans le tombeau. Et il aide sa fille, alors que logiquement, le personnage devrait refuser de l'aider, puisqu'il sait très bien que quand ils vont arriver au tombeau, ben, ils vont tomber sur cette malédiction, etc. Donc, ce personnage n'a pas de sens, ce personnage qui aurait dû être très intéressant est trop lisse.
Marine ?
Alors oui, pour aller dans le sens de la relation père-fille, moi je trouve complètement inexistante. Alors, c'est même pas traité, c'est-à-dire qu'ils s'en sont réduits à... Il lui fait un petit bisou comme ça sur le front, papa t'aime. Voilà, ça caractérise leur relation, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Et moi je me suis fait un parallèle avec la dernière croisade, où t'as quand même Sean Connery avec Indiana Jones, qui pour moi, c'est à peu près la même structure de film. C'est-à-dire, pareil, le père qui a disparu, il trouve un carnet, le journal, etc.
Le journal du Graal, c'est exactement
c'est quand
ça.
Même, elle avec la fin, voilà. Sauf que la dernière croisade, c'est extrêmement bien écrit, c'est-à-dire que la relation père-fils, elle est posée, elle est développée, elle évolue. Tu comprends exactement pourquoi il a une tension avec son père. Enfin, c'est vraiment très très bien écrit. Et à la fin, moi ce que j'avais beaucoup apprécié dans la dernière croisade, c'est que Sean Connery, il y va pas parce qu'il s'est fait tirer dessus. Donc c'est son fils qui est obligé d'y aller. Et là, à la fin, c'est un peu genre, non mais Lara, toi vas-y. Un moment quand ils arrivent devant la grotte, alors qu'elle lui a dit, bah, je t'ouvre la grotte et puis... tu te démerdes, basta.
Et là, c'est Lara, ne voulait pas.
Bah, Lara, tu passes devant. Attends, il dit rien. Et là, il la regarde. Hop, elle descend dans la grotte. Allez, vas-y, ma grande.
C'est surtout qu'elle déchiffre les choses. Enfin, le père est inutile. Lara, en deux secondes, elle comprend tout. Alors que le père, ça fait 7 ans qu'il taffe dessus.
Non, c'est pas vrai.
Et on te laisse en dehors de ça. En plus, tu comprends rien de ce qu'elle fait. Attends, les énigmes. Alors, je mets du jaune, du. Ah, ça fait vert. J'étais là. Attends, tu me la refais. Vert, bleu, rouge. De quoi tu parles? J'ai rien compris.
Ça, je suis d'accord, c'est un défaut, parce que justement, ils ont essayé de coller au jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'énigmes. Donc, on s'est dit, on va mettre des énigmes. Sauf que l'énigme des couleurs, bon, bah, je crois que c'était juste bleu et jaune, ça fait vert. Et l'énigme carrément de l'espèce
couleur
de puzzle,
de
le puzzle du début, bon, il est carrément ellipsé. Esme dit, faites-moi confiance, spectateur, je vais le faire. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est le père ne veut pas ouvrir. Il aurait très bien pu l'ouvrir. Lui-même, il sait où était le tombeau depuis le début, il le cache. Son but, c'est de ne pas l'ouvrir. Donc évidemment qu'il ne va pas les aider à l'ouvrir.
Ah non, mais c'est le truc, c'est qu'il laisse passer sa fille avant. Tu vois, c'est-à-dire qu'à aucun moment, leur relation n'est caractérisée.
Oh, mais ils se font ce bisou avec...
Ah bah oui, c'est génial.
Mais on parle quand même d'un homme... qui a eu donc des problèmes mentaux après 7 ans, mais en fait, il y en avait déjà avant, puisque dans sa cave secrète, sur son bureau, il y a un portrait de lui-même.
c'est une interprétation. Ce mec-là...
Il n'a pas de miroir.
Ce mec-là a des problèmes parce qu'il n'a pas réussi à faire le deuil de la mort de la mère de Lara.
Oui, mais c'est pas du tout traité.
Oui, mais je sais, mais c'est le problème. Mais ça parle quand même de deuil, puisque lui-même n'a pas réussi à faire le deuil. Lara n'arrive pas à faire le deuil de son père. Le pêcheur, / alcoolique, / je me casse la gueule avec mon flingue, n'a pas réussi à faire le deuil non plus.
Oui, il
n'est
pas alcoolique bien longtemps, lui, non plus.
Par contre, quand il découvre que son père est mort sur l'île, ah bah ça va beaucoup mieux. Bon bah il est mort, ça y est, moi j'ai fait mon deuil, c'est fait.
Oui, c'était le mystère.
Lara, elle, en fait le problème c'est que ça déconne dès qu'ils arrivent sur l'île. Ça devient n'importe quoi.
C'est hyper dommage qu'ils aient pas traité cette folie, en fait. C'est-à-dire qu'ils croient au point de devenir fou et de s'imaginer que, je sais pas, cette malédiction soit vraie, que le monde soit vraiment en danger, et que toi, spectateur, bah tu sois dans cette ambivalence en train de te dire, mais est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il a raison, et que le conflit en fait soit sur Lara, tu vois.
Lui, l'ennemi de sa fille, en fait. Le père et la fille qui deviennent des opposants, ça aurait été quelque chose.
C'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça aurait été une très bonne idée, Rumix.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Je trouve que le père aurait dû être beaucoup
aurait
plus...
dû être le grand méchant.
Aurait dû être dans sa folie, pas forcément le grand méchant, mais en tout cas beaucoup plus dans sa folie, et que elle, ça soit une déception immense de oh, génial, j'ai retrouvé mon père. Mais en fait, non, il est plus là. En fait, son esprit n'est plus là. Et que ça soit une espèce de croisade aussi, de le ramener vers la lucidité, et qu'à un moment du scénario qui aurait été judicieux, il sorte une info. Mais là, il se retrouve, il est plus fou et
puis que le sacrifice à la fin soit payant, oui, justement, oui. Qu'à la fin il retrouve cette lucidité grâce à sa fille et que du coup il se sacrifie pour les sauver, quoi.
Hyper touchant que en fait elle pense l'avoir vraiment perdu pour de bon
et qu'elle l'a perdu en tout cas mentalement.
Absolument.
C'est vrai que pour le deuil ça aurait été pas mal de faire un deuil, c'est terrible. Tu retrouves ton père vivant et il est plus là dans sa tête.
Exactement.
Ça aurait été terrible. Donc
oui, mais enfin ça aurait été le style du film. Hein,
moi j'ai une question.
Ah non, vas-y. Pardon, je voulais juste parler de la belle-mère. Je voudrais quand même revenir sur ce point.
Ce n'est pas sa belle-mère.
C'est sa marraine.
Non, c'est sa tutrice. Sa tutrice. Oui. Je sais pas, j'ai cru que c'était sa belle-mère.
Christine Scott. Ouais,
non, mais parce que choix d'actrice.
Oui, il y a marqué méchant sur son front. Oui. Mais peut-être que dans le jeu vidéo, c'est très clair. Mais
c'est un peu mieux fait.
C'est un peu mieux fait, d'accord. Alors, parce qu'il faudra m'expliquer pourquoi le père, dans ses cartons, visiblement à la fin, Lara comprend que son père est au courant que derrière la Trinité se cache.
Il y a sa photo dans le carton. Il y a sa photo à la fin de Christine Scott Thomas. Dodo. Elle voit, il a confié la garde de sa fille à une nana dont il sait pertinemment que c'est sa pire ennemie.
La photo est Dodo.
C'est Christine Scott Thomas, tu la reconnais.
Tu reconnais ses talons aiguilles, ses petits collants,
son manteau,
son imbert.
Il est bigleux, il est fou. Vous voyez bien qu'il a des problèmes mentaux.
Il a un portrait de lui-même sur son bureau.
Il a des gros problèmes.
Ce VHS.
C'est vrai que le problème avec la relation, c'est qu'au début, il nous montre plusieurs fois la même scène où Lara a 8 ans et son père lui dit au revoir, ils nous font croire c'est la dernière scène où il l'a vue, et au milieu du film ils te refoutent une scène où finalement elle a 14 ans et puis elle est en train d'attirer à l'arc parce que mais attention,
ils nous font pas croire, hein.
Ah mais si, attends,
parce qu'il dit ça fait 7 ans que
oui d'accord, mais juste après cette scène arrive de nulle part et tu dis ah bah la scène où il lui a dit adieu, moi je pensais que c'était celle-là, alors que la scène où vraiment ils sont dit adieu c'est ok later, comme dans Call Me By Your Name d'ailleurs, tiens, et lui dit au revoir et elle se barre, et alors tout ça, la scène avec l'arc. Pourtant, j'adore l'arc dans le jeu vidéo, mais elle est ridicule. Elle s'infiltre dans ce camp. Il y a des soldats partout. Elle avec son arc qui tend comme si elle tirait sur quelqu'un.
Tuer quelqu'un, c'est comme tirer sur une pomme aussi. Oui, oui.
Oui aussi. Non, mais alors attends, juste pour finir, c'est que dans le jeu vidéo, il y a quelque chose qui a été très bien fait. C'est que c'était le premier meurtre. Lara est une fille pas normale, mais qui vit une vie de londonienne. Et dans le jeu vidéo, ils insistent sur le premier meurtre va être extrêmement dur à faire. Je ne suis pas ce genre de Croft. Et ils insistent. Et c'est quelqu'un qui essaye de la violer. Elle est obligée de se débattre et elle le tue. Et après, là où ça marche pas dans le jeu vidéo, c'est que ils incitent, tu mets 30 minutes à tuer quelqu'un et après tu dois tuer 400 personnes pendant le jeu. Là au moins, ils ont vraiment bossé le premier meurtre, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez sale qui ne va pas avec le titre du film, où elle le noie dans 2 cm de boue, c'est pas esthétique, c'est assez moche, et ça ils l'ont plutôt bien fait, et après elle tue 5 personnes à tout casser dans le film, et ça c'est quand même quelque chose, un des rares points positifs où c'est mieux dans le film que dans le jeu vidéo. Oui, Fiona ?
Moi j'ai plutôt bien aimé le film parce que c'est Tomb Raider, hein. Enfin, j'ai pas cherché de thématique, donc ça m'a aidé à aimer le film déjà. Et non, mais par contre, c'est vrai que c'est Lara Croft a de la chance quand même, hein, parce que elle a quand même pas mal de peau, cette Lara Croft, mine de rien. Elle se fait voler son sac et boum, dans sa course, elle arrive pile dans le bon bateau. Tu vois,
ah, oui.
Et ça n'arrête pas, des petits trucs comme ça, il y en a plein.
Aïe.
Elle se fait. Bah là, je continue sur la lancée de Fiona. Elle se fait transpercer le bide quand même. J'escalade l'espèce de montagne pour te rejoindre, papa. Ah, t'es vivant. Ah, je crois voir mon père. Mais oui, c'est bien mon père.
De dos, hein.
Bah, bien joué.
Mais d'ailleurs, le père qui est caché depuis 7 ans dans cette île où il y a je sais pas combien de mecs, ils l'ont jamais retrouvé.
Mais
depuis,
ça fait 7 ans qu'il fait des fausses pistes. Ils s'en sont jamais aperçus.
Il vit dans sa grotte, mais il a tout le petit nécessaire pour recoudre Lara.
On peut supposer qu'il va de temps en temps dans le camp voler des objets. Mais là, pour la scène où elle se prend une branche, ça c'est le jeu vidéo. Et c'est là où j'ai bien aimé parce qu'il parlait à des mecs comme moi, c'est tous les petits clins d'œil. C'est-à-dire que le sac à dos qu'elle a, c'est exactement le sac à dos qu'elle a dans le jeu vidéo. Le moment où elle se poursuit par les Chinois Hong Kong, où elle s'accroche au crochet, c'est exactement le jeu vidéo. Et la scène, mais vraiment, mais il y a des mecs qui ont fait des comparatifs sur YouTube avec la scène où elle tombe dans la cascade et elle monte sur le bombardier qui est rouillé, elle tombe, elle ouvre le parachute, mais c'est plan pour plan le jeu vidéo. Ça, c'est vraiment pour nous faire plaisir. Mais c'est vrai que t'as envie de dire, comme je disais pour Razia, je dis bah faites-en un documentaire. J'ai envie de dire bon bah jouez au jeu vidéo, hein, ça ira plus vite.
Parce que là, en termes de scénario, je suis désolée, mais il y a rien.
Non, mais c'est des péripéties.
En fait, ce qui est drôle, c'est que Lara Croft n'a jamais aucun plan. Alors, c'est vraiment une nana de l'arrache. Hein. Alors elle y va. Là, comme tu disais, elle va avec ses flèches, dans le camp. Pour récupérer le comment ça s'appelle, le téléphone satellite. Et ouais, enfin, elle a jamais de plan.
Mais c'est quelqu'un qui agit à l'instant. Elle est comme ça.
Mais l'instinct un peu bête parfois. Et d'ailleurs, son meilleur ami, qui est, enfin, son nouveau meilleur ami alcoolique, mais qui n'est plus alcoolique depuis qu'il la connaît.
Ah ouais, non, mais d'ailleurs, ils ont failli faire une romance avec eux. Et là, j'aurais gueulé. Là.
Ah ouais, non.
Parce que Lara Croft ne couche pas.
Non,
que ce soit
vrai.
Bien clair. Personne ne mérite Lara Croft. Ça, c'est pour faire plaisir à nous, joueurs, pour pas qu'on soit jaloux. Et quand il commence à faire un début de romance, il dit non, ils vont pas oser, pas avec ce mec-là.
Et d'ailleurs, même tous les moments où ça glisse un tout petit peu du côté des remarques sexistes, moi, ça m'a fait vraiment rire parce qu'on a l'impression qu'ils sont tellement stressés à l'idée de faire une boulette. D'ailleurs, elle est tout le temps avec son sweat à capuche et tout, ce que j'ai trouvé assez cool d'ailleurs. Mais à chaque fois qu'il y a un mec qui fait une remarque un peu sexiste, que ce soit le prêteur sur gage ou le mec, le méchant, là, le blond qui a ses deux gamins, mais qui est.
Vogel.
Ouais, Vogel, là, voilà. Et à chaque fois, il fait sa remarque sexiste et dans la seconde qui suit, il s'excuse. Il dit ah, non, mais pardon, en fait, ça fait 7 ans que je suis sur cette île, je suis un peu fatigué.
Il y a une nana dans le scénario, c'est pour ça, il y a une nana.
Mais non, mais c'est hashtag MeToo, hein, tu sais, sur lui aussi, hein,
on
tweet,
sent la crispation aussi, c'est hyper intéressant. Non,
mais ce que je voulais dire sur ce mec-là, quand même, c'est un mauvais ami, quoi. Le mec, il dit. Il fout un coup de pelle ou je sais pas quoi à son ravisseur,
son
tortionnaire. Il dit vas-y Lara, va-t'en, cours. La meuf, elle est entourée de militaires, elle est à la main attachée. Il dit vas-y, barre-toi.
Ouais, bah, en attendant, ça marche.
T'as pas besoin d'ennemis, hein, quand t'as un ami comme celui-là.
C'est un super bon ami. À la fin, il retourne au tombeau et il sait qu'elle est là. Je ne sais pas comment il fait.
Ça ne sert à rien. Il est là avec tous les Chinois qui se sont fait capturer. Fait ouais, on va monter une milice et tout. Ils ne font rien. Ils prennent leurs armes, ils attendent. Ils disent bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose.
Et puis il est dans son tas de cailloux et la femme, il est là. Lara dans son tas de cailloux et elle sort.
Et Lara arrive.
Toutes ces scènes d'escalade, mon Dieu, mais interminables, mais dans l'avion du jeu.
Mais Tomb Raider et l'escalade. Tomb Raider qui n'escalade pas. Tu vois, c'est comme s'il y avait James Bond qui couchait avec personne. C'est pas possible.
Plaidoyer pour l'escalade. Par contre, c'est dommage. J'aurais voulu qu'elle passe plus de temps dans l'escape game vivant, là, justement, dans le tombeau, parce que. Ça aurait été sympa, je trouve, justement, ces énigmes et ce côté escape game marche bien.
Ils ont raté.
C'est dommage. En dehors des énigmes, bien. Moi, ça m'aurait intéressé, justement, qu'ils adaptent cette particularité du jeu vidéo et que ça devienne ludique parce que t'es dans sa compréhension, t'es avec elle et tu cherches avec elle à comprendre comment ça fonctionne.
Ils ont complètement raté les énigmes,
ça, c'est sûr. Et alors, à la fin.
Et la relation père-fille.
Oui, aussi. Mais à la fin, le boss final, parce qu'ils mettaient vraiment une échelle. Sans cette échelle, d'ailleurs, ça aussi, c'est très Indiana Jones, la dernière croisade. Le dernier. Et donc au moins elle arrive, donc elle doit rattraper le mec qui joue Shane dans The Shield, j'ai oublié son nom.
Et Vogel,
c'est Vogel. Et au lieu de sauter de l'autre côté et de faire tomber l'échelle, elle fait tomber l'échelle de son côté à elle. Elle se coince elle-même. Mais pourquoi Lara? Pourquoi faire ça?
Mais parce
elle va de l'autre côté, enlève l'échelle, il sera coincé. T'aurais exactement le même résultat.
Elle pensait pas avoir le temps, on imagine.
Oui.
Ah, voilà. Ouais, c'est pas le seul détail que je me suis arrêtée, tu vois.
Non, mais... enfin, visiblement, s'il n'y a pas besoin d'échelle pour sauter ce petit.
Non,
à quoi bon alors?
Non, c'est pas une chose. C'est parce qu'elle arrive à sauter parce que ça commence à s'effondrer et elle utilise un espèce de pieu qui, là, évidemment, est aussi extrêmement typique du jeu vidéo. On utilise tout le temps ce pieu. Les clins d'œil sont pas subtils, je vais pas exagérer, mais ils sont légers. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop forcés dans l'histoire, sauf le dernier, où tout à la fin, elle retourne chez le prêteur sur gage, elle prend ses deux flingues, et là, non, là, c'est pas possible. Là, les mecs, là, le clin d'œil, et pourtant, vous avez réussi à rester ça léger, et là, tu dis, ouais, non, on a compris que c'était Tomb Raider, on a compris que c'était la licence, et la question que je vais vous poser à la fin, parce qu'on arrive au bout, si on enlève la licence Tomb Raider, qu'est-ce qui reste de ce film?
Bah, rien.
Bon, bah voilà, merci. C'était rapide.
Je pense que ce sera le mot de la fin.
Allez, on finit par le tour final. Fiona, pour ce film?
Alors, moi, j'ai pris plaisir à le voir parce que c'est exactement ce que je m'attendais à voir en entrant dans la salle, c'est-à-dire des scènes d'action avec une meuf qui transpire sur fond de quête émotionnelle, le tout sur un semblant d'histoire bancale, mais qui se laisse gober en même temps que le popcorn, et à la fin, t'as envie d'acheter une Volvo.
Ok.
C'est vrai.
Camille?
Bah, je suis d'accord avec Fiona.
Très bien. Rumix?
J'étais déçue. J'ai beaucoup aimé la première partie qui faisait un super court métrage avec la chasse en vélo.
C'est une très bonne scène.
Très bonne scène. Après, je trouve que on peut pas. Oui, on s'attend pas à un chef-d'œuvre de la part de Tomb Raider, mais on doit pas non plus prendre les spectateurs pour des cons. Et quand on pose des relations père-fille, bah il faut les traiter. Et c'est trop facile de se cacher derrière le côté ouais c'est de l'action et tout. Non. On doit être exigeant dans tous les genres, en fait.
Très bien, Claire.
C'est un film d'action et pourtant je me suis ennuyée.
Et je pense que ça vient du fait que toutes les scènes sont hyper étirées. Donc arrêtez de penser vos films comme des trilogies, pensez vos films déjà comme des, avec un début, un milieu et une fin.
Ça c'est pour les producteurs.
Une œuvre entière, ouais.
Et Marine ?
Oh bah pas mieux, hein. Fuyez.
Fuyez carrément.
Moi si je te dis Call Me By Your Name.
Non bah écoutez, moi je vais le recommander. C'est comme je dis au début, c'est moyen plus. C'est pas un très bon film. C'est du Tomb Raider. On passe un agréable moment. C'est pas. Non mais c'est pas catastrophique. Voilà, hein, et on va finir par les recommandations de la semaine, ce que vous aimez, ou les dérecommandations. Fiona ?
Moi, je recommande Tibetatum, une série d'animation sur TF1 tous les dimanches matins.
Hashtag auto-promo.
Voilà, ça n'a pas.
C'est une très bonne série.
C'est un petit peu un délit d'initié, ce que tu viens de faire. Mais... Camille ?
Pas de recommandations cette semaine.
Et des recommandations, peut-être ?
Non plus.
Non plus. Sarah ?
Moi, j'ai vu un bon documentaire hier soir. C'est sur
Art Rock.
C'est pour toi, Fiona. Tu regardes pas de documentaire.
Écoute, ça aurait pu l'être, car c'est sur les anti-avortements. Non, justement, ça n'aurait pas pu exister au Maroc. C'est les anti-avortements en Europe. Qui gagnent de plus en plus de terrain et comment ils placent leurs pions pour dominer le monde. je trouve que c'est assez bien fait et assez inquiétant de voir que les droits de la femme reculent sur notre continent. Voilà.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle, je crois, la croisade des anti-avortements, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment des portraits de femmes et de parents qui ont perdu leurs enfants, soit parce que en Italie, en Pologne, en Hongrie, parce que les objecteurs de conscience, donc les médecins gynécologues qui refusent de pratiquer l'avortement, les avaient laissés mourir plutôt que de les opérer, de prendre le risque de tuer des fœtus par exemple. Ouais. Donc voilà. Mais je vous recommande, c'est vraiment bien fait, c'est un bon documentaire.
Une bonne comédie, merci Sarah. Armand ?
Une recommandation avec beaucoup de retard, c'est The Americans, qui est une série que j'ai vue sur Netflix.
Toutes
que
les saisons.
Je trouve très chouette. Oui, apparemment, allez-y parce que c'est la fin bientôt, mais moi je découvre le début, je trouve ça très,
très
intéressant et c'est à la fois un peu trépidant et il y a un peu de réalisme, mais c'est quand même bien foutu sur l'espionnage, j'ai trouvé ça très très chouette. Et une des recommandations, ce serait Altered Carbon, qui est une série sur Netflix qui est. Je sais même plus si c'est un film ou une série, mais je suis pas allé au-delà de 15 minutes tellement c'était nul.
Ça t'a vraiment pas plu.
Non, c'était pas bon. Pourtant, j'adore la SF, mais vraiment, je peux en manger comme ça. Et là, non, je n'ai pas mangé.
Très bien. Remix.
Moi, je reste sur Netflix et je recommande 7 Seconds, qui est une série qui est créée par la créatrice de la version US de The Killing. Et j'ai pas terminé, mais c'est incroyable. C'est des multi-points de vue. C'est un personnage qui la mort d'un personnage qui met en lumière plein de choses. On voit la famille, les flics, enfin c'est incroyable et vraiment je recommande cette série.
C'était limite, hein. Chose, ça se rapproche de trucs hein, quand même.
Ah, attention.
Claire ?
Moi, je vais recommander un podcast. Ça s'appelle Entre. C'est par l'équipe qui a fait Transfert et c'est on suit l'entrée en 6e d'une petite fille. Et semaine par semaine, c'est son quotidien et elle le raconte avec des mots très justes et c'est très touchant.
Donc Entre avec un E.
Entre
ouais. Okay. Non, c'est très bien.
Marine.
Ça dure 5 minutes en plus, c'est très très court, c'est tous les mercredis. Moi, je l'ai écouté aussi, c'est très bien. Uh-huh. Et non, ma recommandation, c'est la saison 3 de Unreal. Parce que les deux personnages féminins sont vraiment badass. Et en plus, pour la saison 3, le personnage du bachelor, c'est une bachelorette. Yeah. Et du coup, la thématique est hyper intéressante au regard de ce qui se passe en ce moment.
Est-ce qu'elles sont plus badass que Jessica Jones ?
Franchement, match. Queen, elle se défend bien, ouais.
Ah, y a match.
Ouais,
est-ce qu'elles sont plus badass que Tomb Raider ?
Oh, ah, tellement. Ouais. Mais Queen, c'est tellement un des meilleurs personnages féminins de la télévision, quoi.
Et moi, je vais vous recommander le jeu Tomb Raider, directement. Si vous voyez pas le film, jouez au jeu, il est vraiment bon. Le deuxième était un peu moins bien, mais celui qui se passe sur l'île japonaise, c'est plein d'aventures. Le scénario, il vaut ce qu'il vaut, mais c'était vraiment intéressant et je vous le recommande. On se retrouve dans 2 semaines et n'oubliez pas que le scénario... Hein, non, personne finit ma phrase. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un...
C'est la base de tout.
Voilà, c'est ça que j'ai dit. La mise en scène est là pour sublimer un scénario et pas l'inverse.
Exactement.
Oh, c'était beau, ça.
Absolument.